La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24 à 7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton « Donate » pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
France Inter.
Il tue pour n'importe quoi. Il tue pour de l'argent, il viole, il kidnappe. Nous autres, on a une idéologie. Je ne vole pas, je ne kidnappe pas, je ne tue pas pour rien.
La seule et l'unique émission à Toronto renouvelle son partenariat avec Radio France Internationale pour vous présenter en exclusivité le journal d'Haïti et des Amériques. Un regard et des perspectives par des correspondants haïtiens. Chaque dimanche sur Popouri Show, 11h, 13h sur CUT 89,5 FM. Rejoignez les quelques 3 millions d'auditeurs pour vous informer de ce qui se passe réellement en Haïti. Alors, on vous y attend. Donc, Naptan où? Pour la prochaine saison, devenez nos témoins de la francophonie. CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, vous ouvre encore plus son antenne. Votre radio a décidé de vous donner encore plus la parole. Vous allez pouvoir réagir à des sujets d'actualité, témoigner, partager vos expériences en tant que francophone ou francophile d'ici ou d'ailleurs. Popouri Show, en partenariat avec RFI et France 24, votre magazine phare qui vous accompagne depuis 36 ans. CUTFM, c'est votre radio. Nous la faisons ensemble. Vous l'avez compris, on a besoin de vous. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous vous proposons de devenir les témoins de la francophonie. Inscrivez-vous immédiatement popouri@cut.fm ou visitez notre site web popourishow.com. Indiquez-nous les sujets qui vous passionnent et faites partie de nos auditeurs témoins. À très vite sur notre antenne pour faire la radio ensemble. CUTFM, Popouri Show, 36 ans. Toute la diversité du monde sur votre fréquence. Votre attention, s'il vous plaît. Le Festival international de films francophones Ciné Franco revient du 3 au 11 novembre au cinéma Carlton. Et Popouri Show est très fier d'être parmi les partenaires privilégiés de ce festival de films unique à Toronto. Et oui, cette 26e édition est imprégnée d'amour, nuancée de drames, de comédies, d'histoires inattendues. Des sujets d'actualité et d'histoire se reflètent dans des films originaux et percutants. Du 3 au 11 novembre au cinéma Carlton, Ciné Franco vous réserve d'incroyables surprises. Une panoplie de films avec des grosses vedettes du moment. Des actrices à couper le souffle, telles que Virginie Efira, Catherine Fro, Karin Viard et la sublime Lynn Renault. Du 3 au 11 novembre, on vous y attend. Et poursuivant sa tradition, Ciné Franco accueille la tournée Québec Cinéma, porteuse de films magnifiques où l'amour se conjugue avec des émotions fortes. Du 3 au 11 novembre 2023, Popouri Show vous y attend au cinéma Carlton, Métro Collège. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner des laissez-passer. Rendez-vous sur le site cinéfranco.com ou popourishow.com. Coup de cœur, surprise, grand nom et découverte pour 9 jours de folie. Ciné Franco vous souhaite bon cinéma.
Autre question, vous avez vu bon, les événements, les bousculades, la Concordia, là, puis les pro-palestiniens qui invectivaient les militants juifs. Et puis bon, vous allez observer un certain moment, on voit un individu, clairement, il a été identifié. Ça serait en fait un chargé de cours de l'Université de Montréal qui s'est rendu manifester à Concordia. C'est vraiment un militant. D'ailleurs, son champ d'études porte sur la question du Proche-Orient. Mais il s'est rendu manifester. Il a tenu dans le passé des propos à la limite également. Là, les Juifs réclament, il y a une organisation juive qui réclame carrément son congédiement d'Université de Montréal. Elle sait, bon, que quelqu'un qui tienne, et à un certain moment, il dit à une des étudiantes juives qui avait un kiosque, « Retourne en Pologne ».
Non, c'est inacceptable.
Il lui dit ça, « Retourne en Pologne ». Et là, il faut comprendre ce que ça signifie, la Pologne. Là. C'est les camps de concentration, là, Auschwitz puis Birkenau. Là. C'est ce qu'il sous-entendait. Là.
Ici votre commandant de bord sur le vol CUT89.5 FM, en partance de Charles de Gaulle. Dans 7h10, nous serons à Toronto. Bon voyage.
Bienvenue à la 26e édition du Festival Ciné Franco, qui se tient en ce moment même sous le thème de l'amour au cinéma Carlton à Métro-Collège. Dernière journée de très beaux films en français, sous-titrés en anglais. C'est la dernière journée et nous avons des billets gratuits pour les auditeurs membres de la radio. Écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm. Et malgré notre absence, nous vous invitons à un voyage exceptionnel aujourd'hui avec l'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader. Une émission présentée en partenariat avec cinéfranco.com qui nous présente un aperçu des films à l'affiche ce dimanche. Radio France Internationale, France 24, Apéro Chic qui nous invite à découvrir l'exposition Dali avec un show privé exclusif en présence du commissaire Félix Bélanger le mardi 28 novembre. Une occasion unique de découvrir les œuvres de cet artiste à l'univers extravagant. Félix Bélanger vous délivrera tous les secrets des coulisses. Eh oui, préparez-vous à explorer la vision de Dali, de l'enfer, du purgatoire et du paradis dans le monde de Dante. Eh oui, nous saluons nos partenaires chez les éditions Prise de Parole, qui nous présentent le lancement du roman Wellsford de Claude Guillemin, qui a eu lieu au Bloom Bar Studio rue Saint-Clair le 6 novembre dernier. Eh oui, la Société d'Histoire de Toronto qui nous invite aujourd'hui à une visite guidée du cimetière York. Eh oui, c'est aujourd'hui à partir de 13h. Départ à l'entrée du cimetière au 160 chemin Beecroft, ouest de la rue Yonge. Pour plus d'infos, visitez immédiatement le site de la Société d'Histoire de Toronto, sht.ca ou popourichaud.com. Et j'en profite pour vous lancer un appel à contribution pour soutenir notre émission. Et oui, dès demain, nous serons en mode de campagne de levée de fonds. Et plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour garder l'antenne. C'est la seule, l'unique émission en langue française sur CUT89.5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Beau temps, mauvais temps, contre vents et marées. Nous sommes à vos côtés depuis 36 ans. Alors, faites un effort. Veuillez faire un don en toute sécurité en ligne sur www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Faites un don à Popourri Show. Merci du fond du cœur et merci à nos généreux partenaires. Et au menu ce dimanche, guerre Israël-Hamas. Climat de tension au pays, hausse des actes haineux envers la communauté juive, plusieurs incidents sur les campus universitaires de Montréal, Toronto et des coups de feu sur deux écoles juives à Montréal cette semaine, décryptage de Radio France Internationale. Les récompenses littéraires sont tombées cette semaine, le prix Goncourt a été attribué à Jean-Baptiste Andrea pour Veiller sur elle de l'édition L'Iconoclaste, mardi 7 novembre, eh oui, Jean-Baptiste Andrea, lauréat du prix Goncourt 2023, je vise la simplicité la plus absolue, en entretien en exclusivité sur TV5 Monde. Après les nouvelles désastreuses de TVA, une triste nouvelle attend de nombreux employés à Radio-Canada. N'est-il pas temps de revoir le mandat de la Société d'État Radio-Canada? Mais d'abord, le magazine L'Accent des Autres avec Nicolas sur, eh oui, de l'Afrique à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe. L'Accent des Autres nous présente chaque semaine l'essentiel de l'actualité hebdomadaire des médias francophones publics. Et à la une, aujourd'hui, au Canada, la province du Québec et Ottawa ont présenté leurs cibles en matière d'immigration cette semaine. Grande déception de beaucoup d'organismes. Organismes francophones au pays. Et juste après, nous entendrons une chanson d'une franco-ontarienne qui connaît un franc succès en France. En ce moment, elle est en tournée en France. Mimi Obonsawin, autrice, compositrice, interprète, originaire de Grand Sudbury, née d'une mère franco-ontarienne et d'un père Abenaki. Et elle vient de sortir un album complètement en français. À suivre absolument. Popourri Show compte sur vous. Aidez-nous à garder l'antenne. Faites un don à popourrichaud.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Merci infiniment de votre générosité.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et voici donc l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours, vu par RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Bleu et la RTBF, les partenaires au sein des médias francophones publics. Il va d'abord être question du trafic ferroviaire en Suisse, avec le tunnel du Gotthard toujours à l'arrêt depuis le déraillement d'un train marchandises le 10 août dernier, Pierre-Anne Chauffat.
On espérait alors rétablir cet axe nord-sud en quelques semaines. La mauvaise nouvelle vient de tomber. Il faudra finalement plus d'une année pour à nouveau traverser les Alpes à 200 km à l'heure.
L'immigration au Canada, elle répond à certains critères. Et cette semaine, le Canada, mais aussi la province de Québec, ont présenté leur nouvelle cible en matière d'immigration, Nadim Obarak.
Ottawa confirme un plafonnement alors que Québec augmente légèrement ses cibles.
Au Mali, les casques bleus de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, ont définitivement quitté Kidal. C'est la ville symbole de la crise malienne, Nicolas Sûr.
Oui, c'est le fief des rébellions du Nord et ce départ intervient dans un contexte d'extrême tension car la junte au pouvoir à Bamako veut profiter du départ de l'ONU pour asseoir son autorité sur cette partie incontrôlée du Mali.
L'inflation au plus bas en Belgique, en octobre, le mois dernier, elle était de 0,36%. C'est son niveau le plus bas, Sophie Brems, depuis quasiment 3 ans.
Et la principale raison de cette baisse de l'inflation, c'est la chute des prix de l'énergie. Écoutez plutôt, moins 51% pour l'électricité en un an et moins 77% pour le gaz. Et pourtant, au quotidien, la vie reste chère parce que pas mal d'autres choses ont par contre augmenté.
L'inflation touche notamment les produits alimentaires, l'huile d'olive, les pommes de terre, les œufs, les bonbons en hausse de 21% aussi selon l'Association de défense des consommateurs en France. Nous verrons que cette année, à l'occasion d'Halloween, cette semaine donc, les parents ont fait un petit peu plus attention. L'immigration au Canada à présent, le visage du pays va changer au cours des prochaines années. Le gouvernement Trudeau limite à 500 000 le nombre de nouveaux résidents à partir de 2025, Nadi.
Oui, Ottawa estime qu'un plafonnement est nécessaire pour maintenir la capacité d'accueil du Canada en logement et en accès à l'éducation et aux soins de santé. Fait à noter, 6% des immigrants hors Québec devront être francophones l'an prochain, mais c'est trop peu selon la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Liane Roy.
Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille très fort pour augmenter les cibles, pour justement stopper le déclin démographique des communautés francophones et acadiennes.
Liane Roy, donc, de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. De son côté, le gouvernement du Québec, Nadi, augmente légèrement ses cibles d'immigration.
Voilà, Québec prévoit accueillir 56 500 nouveaux arrivants par année en 2024 et 2025, dont 6 500 étudiants qui obtiennent un diplôme dans une institution francophone et qui restent au Québec pour travailler. Et autre nouveauté, le Québec va exiger que les travailleurs étrangers, sauf dans le domaine agricole, réussissent un test de français s'ils souhaitent renouveler leur permis après 3 ans. Le Premier ministre François Legault invoque la protection du français pour justifier sa position.
Ce message doit être très clair, là, autant pour les étudiants que pour les travailleurs. À l'avenir, si vous voulez venir au Québec plus que 3 ans, si vous voulez être reçu immigrant permanent, il va falloir parler français.
Voilà, le Premier ministre québécois, donc, quelles sont, Nadie, les réactions à cette annonce?
Eh bien, l'opposition à Québec n'est pas très convaincue. D'ailleurs, Pascal Bérubé du Parti québécois a tourné en dérision le niveau de connaissance du français qui sera exigé des travailleurs temporaires.
C'est comme un Québécois qui se rend dans un tout inclus dans le Sud et qui se rend au bar et qui dit « Je voudrais une cerveza, por favor ». Mais si vous êtes capable de dire ça, 3 ans de plus.
Déception aussi dans le milieu des affaires qui estime qu'il faudrait que Québec accueille bien plus que 50 000 immigrants par année pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre.
Voilà, ce sera tout pour cette semaine. L'accent des autres revient bien sûr dans 8 jours, à la même heure, en compagnie des partenaires des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.
France 24 en direct, partout dans le monde. En 3 langues, les émissions à la demande, les alertes en temps réel. Vous pensiez avoir tout vu? Avec la nouvelle application France 24, allez encore plus loin. Recevez les tweets exclusifs de nos journalistes, l'info avant tout le monde. Personnalisez votre page, vos contenus préférés, en un clin d'œil. Découvrez un nouveau design, tout simplement beau. Avec cette nouvelle application, prolongez l'expérience France 24.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Mimi Obantouin, je suis auteure, compositrice, interprète, originaire de Sudbury, Ontario. Un gros remerciement à la Semaine de la francophonie de Toronto pour m'avoir ici aujourd'hui. La première chanson que je veux jouer, c'est une chanson de mon nouveau album qui s'appelle Tug of War. Je veux apprendre, je veux comprendre d'où je viens, où je vais me rendre. Je veux remplir mon temps avec des choses intéressantes, avec ceux que j'aime et ceux qui me réconfortent. J'ai plein de questions avec aucune réponse. Ça vient et ça pense, ça change de direction. Just a little. quoi bon être un oiseau en cage? Faut être un papillon en voyage. La liberté nous appartient. Tiens bon, courage. On me disait très souvent, quand tu grandiras, tu comprendras. Sois sage, sera belle comme une image. Et maintenant que j'ai grandi, je vous assure, j'ai tout compris. Sois toi, tu verras que sera, sera.
FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Et oui, du 13 au 19 novembre, je vous invite personnellement à faire un don à Potpourri Show, la seule, l'unique émission en langue française sur CUT FM depuis 36 ans. Et j'ai le plaisir d'offrir une paire de billets pour un concert exceptionnel, des sons sensationnels de l'Okavango African Orchestra au Redwood Theatre le samedi 2 décembre. Venez célébrer avec nous leur nouvel album, Migration, lors d'un concert spécial dans un magnifique théâtre historique. De multiples instruments, langues et pays définissent l'Okavango African Orchestra de Toronto. Un ensemble primé au prix Juno, composé de 8 musiciens d'origine africaine vivant à Toronto et à Montréal. CUT 89,5 FM compte sur vous pour sa survie. Eh oui, faites un don sur www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate et écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Et voici un extrait de l'univers de Okavango African Orchestra.
Allons, athlètes de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous, l'élite sportive réunie. L'étendard tricolore est levé. L'étendard tricolore est levé. Entendez-vous dans vos écrans? Montez ces intenses émotions qui viennent jusque sur vos bras. Émouvoir vos fils, vos compagnes. Au jeu, citoyens. Formez vos supporters. Chantons. Chantons. Que l'histoire qui s'écrit grave nos mémoires à l'unisson.
C'était un message de Sophie Franc, solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara. Nous croyons en la richesse de la diversité et en la puissance de la solidarité. Avec l'aide de ses bénévoles, Sophie Franc prévoit, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté des immigrants francophones au Niagara. Ah, vous ne nous connaissez pas encore? SophieFranc.org. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Faut arrêter ça, là. Ça presse de dire calme. On se calme, tout le monde, au Québec. Oui, c'est terrible ce qui se passe au Proche-Orient. Mais il faut pas importer ça ici, chez nous. Faut vivre ensemble. Faut être capable de se respecter. Et j'espère que ça va se calmer rapidement dans les prochains jours.
Bonjour Arsène.
Oui, bonjour Monsieur Rouen. Bonjour aux autorités de la RSD.
À Yaoundé au Cameroun.
Oui, c'est ça.
Des questions sur la guerre Israël-Hamas.
Oui. Les rebelles houthis du Yémen ont déclaré la guerre à Israël et lancé une attaque de missiles sur le territoire israélien. Mm-hmm. Il y a deux questions.
Oui.
Comment expliquer leur participation au conflit entre Hamas et Israël?
Ouais. Depuis le début de la guerre Israël-Hamas, les Houthis lancent régulièrement des missiles et des drones de combat en direction d'Israël. Tous ont été interceptés. Bonjour Franck Mermier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient et notamment du Yémen. 2000 kilomètres à peu près séparent le Yémen d'Israël. Expliquez-nous pourquoi les rebelles Houthis ont déclaré la guerre à l'État hébreu.
Alors les rebelles Houthis donc gouvernent le Yémen, une grande partie du Yémen depuis 2014, depuis leur conquête de la capitale Sanaa en septembre 2014, et ils sont soutenus fortement par l'Iran et par le Hezbollah libanais. Et ils se réclament donc de ce qu'ils appellent, enfin de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui relie l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, la Syrie et les rebelles Houthis, ainsi que des milices irakiennes pro-iraniennes. Donc c'est dans ce cadre de cette alliance que, et pour soutenir selon eux le peuple palestinien, que les rebelles Houthis ont envoyé des missiles balistiques et des drones, notamment le 31 octobre. Des missiles balistiques, d'ailleurs, il faut dire d'ailleurs qu'ils ont été interceptés au-dessus de l'atmosphère, ce qui signifie qu'ils ont bénéficié d'une haute technologie iranienne. Et,
alors justement, vous parlez de l'Iran, de cet appui militaire, appui financier également de la part de Téhéran. Faut-il y voir la main des autorités iraniennes derrière ce nouveau front, derrière ces lancements de missiles Houthis?
Ah oui, tout à fait. On peut tout à fait voir un soutien iranien et aussi un message envoyé par l'Iran à Israël et aux États-Unis concernant le risque d'une déflagration régionale si la guerre venait à s'empirer, et notamment à ce que Israël continue son avancée dans la bande de Gaza. Dans le même temps, il faut prendre aussi en compte des questions intérieures yéménites, du fait que c'est un moyen pour les rebelles houthis de réaffirmer leur pouvoir et leur légitimité entre guillemets au sein de la population yéménite. Il faut savoir aussi que la population yéménite soutient dans sa majorité la lutte des Palestiniens.
Oui, et d'ailleurs, ce que disent les houthis. Hein, nous avons déclaré la guerre à l'État hébreu à la demande du peuple yéménite.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a eu de nombreuses manifestations au Yémen, dans les différentes parties du Yémen, même celles qui ne sont pas contrôlées par les Houthis. Dans le même temps, il faut savoir que la population yéménite est extrêmement appauvrie et éreintée par cette guerre qui dure depuis 2014 et qui verrait véritablement d'un mauvais œil l'entrée dans un conflit avec Israël.
Ouais. Arsène, vous avez une dernière question. On l'a un peu évoqué à l'instant avec Franck Mermier, mais allez-y, posez-la.
Ok. L'ouverture de ce nouveau front augmente-t-il les risques d'un conflit régional?
Voilà, ça c'est vous l'évoquiez en deux mots, hein, Franck Mermier, tout à l'heure. Une régionalisation du conflit est-elle à craindre?
D'une certaine façon, oui, puisque un porte-avions américain est entré en mer Rouge, le porte-avions Eisenhower, le 5 novembre.
Et qu'il a d'ailleurs intercepté, un navire de l'US Navy a intercepté un des missiles et des drones lancés par les Houthis.
Et dans le même temps, hier, les Houthis ont réussi à détruire un drone américain qui avait été lancé en face des côtes yéménites. Donc on voit qu'il y a déjà une implication américaine en mer Rouge du fait que la stabilité de la mer Rouge peut être menacée par l'implication des Houthis dans cette guerre, simplement par le biais d'envoi de drones et de missiles. Et donc il faut savoir aussi que c'est lié également à l'implication du Hezbollah, pour l'instant qui est contenu au sud du Liban, mais qui pourrait dégénérer si notamment les tirs de représailles israéliennes venaient à s'intensifier.
Et oui, c'était Appel sur l'actualité, le rendez-vous interactif des auditeurs de RFI avec Juan Gomez. Émission que vous pouvez capter chaque jour sur RFI. Dès lundi, la radio CUTFM sera en mode de campagne de financement. Nous avons besoin de vous. Allez, c'est un moment exceptionnel pour vous, chers auditeurs, auditrices, de démontrer à la direction, conseil d'administration de CUTFM, votre attachement à notre émission, la seule, l'unique émission en langue française. Nous sommes à vos côtés depuis 36 ans. Beau temps, mauvais temps. Eh oui, nous sommes toujours au rendez-vous. Nous sommes que des bénévoles passionnés de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Faites un don en toute sécurité en ligne sur www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Faites un don à Popouriche, CUTFM. Et vous serez parmi nos invités VIP lors des concerts, pièces de théâtre, projections de films et des cocktails, rencontres tout au long de l'année. Merci de votre appui à la seule émission en langue française de la radio de l'Université de Toronto. Et maintenant, place à la littérature. Le prix Goncourt a été décerné mardi à Jean-Baptiste Andréa pour Veiller sur elle aux éditions L'Iconoclaste. Une histoire d'amour au temps du fascisme en Italie, déjà récompensée par le prix Fnac. Chaque année, l'annonce du prix littéraire le plus prestigieux en France provoque l'effervescence des journalistes, caméramen, photographes, rassemblés au restaurant Drouan à Paris. L'auteur québécois Kevin Lambert et son roman Que notre joie demeure ont été éliminés. Boudé par le ciné, consacré par le Goncourt, qui est Jean-Baptiste Andréa, l'auteur de Veiller sur elle? Réponse avec Patrick Simonin et son invité Jean-Baptiste Andréa sur TV5 Monde.
Bonjour Jean-Baptiste Andréa. Félicitations. Vous êtes le prix Goncourt 2023. Veillez sur elle. C'est un événement. C'est une vie qui est bousculée de se retrouver avec le plus prestigieux des prix littéraires français, Jean-Baptiste.
Ouais, c'est un vrai tremblement de terre. C'est impressionnant à vivre. C'est une joie immense et c'est une secousse tellurique.
Ouais. Et en plus, on voit là les images. Dans un premier temps, vous avez cru que vous ne l'aviez pas, que c'était perdu.
Oui, on a cru pendant 10 minutes, on s'est dit c'est pas nous, ils ne préviennent que le gagnant, et on avait mis une heure limite qui était vers 12h40, c'était impossible pour nous que ça, qu'il n'ait pas annoncé au gagnant, qui était censé être là à 12h50, et donc on a ouvert une bouteille, on s'est dit c'était chouette de vivre ça, et parce que ça l'était vraiment. Et puis on continue. Oui, oui, non, mais vraiment, on a vécu des jours d'une très belle intensité émotionnelle, et puis j'ai texté mes amis, ma famille, en disant c'est pas nous. Et tout d'un coup, il y a eu une explosion et des cris, et le coup de fil venait d'arriver dans le bureau de mon éditeur, qui était parti, enfin, qui est parti dans son bureau. Et j'ai pas trop compris ce qui se passait. Il y a eu des hurlements et tout d'un coup, ça a été c'est toi, donc je suis un des rares mecs qui ait perdu et gagné le même prix Goncourt.
Oui, on voit le monde, là, tous les journalistes l'annoncent comme ça. C'est quelque chose d'inouï.
Je crois que le type qui débarque du van, là, il comprend pas ce qui se passe.
Vous avez dit à ce moment-là, c'est 42 ans de passion, de rêve, d'être écrivain et de se retrouver là. Vous leur avez dit ça?
Oui, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est vrai que je voulais être écrivain. Je me suis pas dit je vais gagner un prix Goncourt dans ma vie. Ça faisait pas partie de mes ambitions, mais mon ambition certainement était de devenir écrivain depuis que je suis tout petit. La seule chose que je sais faire, c'est écrire, et je me sens bien quand je le fais.
Oui.
Et voilà, donc ça a été. C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable parce que 14 fois refusé votre premier bouquin, il faut quand même saluer votre éditeur, l'Iconoclaste. Et ouais, 14 fois refusé par 14 éditeurs, le premier roman.
Ouais, mais pas par Sophie de Sivry, mon éditrice, qui était la première à me dire j'adore ce livre, ne le montre à personne, je veux le publier. J'ai retrouvé ce matin, j'ai reçu une vidéo d'elle qui date de cette époque où on présente le livre à l'équipe de l'Iconoclaste et où elle dit donc de ce premier roman, on va en faire un feu d'artifice. Et c'est fou d'être arrivé là aujourd'hui.
Vous lui rendez hommage, évidemment, vous lui avez rendu hommage parce que malheureusement elle est décédée il y a quelques mois seulement.
Oui, elle infuse ce livre. Ouais. Je vis avec, de toute façon, elle infuse ce livre. Pour moi, il y a une survie, elle est là. Elle est là et elle est dans ce livre. Elle est dans ses pages et dans la couverture.
Ouais.
Elle est partout.
C'est l'amour de la littérature au fond parce que vous êtes aussi scénariste, vous avez travaillé au cinéma longtemps, mais c'est d'imaginer des histoires. On est dans la fiction, dans le romanesque.
Mais j'adore ça. Enfin, c'est un besoin primordial de l'être humain de raconter des histoires. À partir du moment, je pense, où on a inventé le feu, il a fallu meubler ces heures gagnées sur la nuit. Et là, on a commencé à inventer. Et ça veut dire que l'invention est ce qui finalement... Le progrès, c'est ça qui a peut-être fait avancer l'être humain, le développer son cerveau pour inventer. Il n'y a rien de plus noble pour moi que la fiction.
Et là, il y a la relation avec les lecteurs. Et alors maintenant, ils vont être des centaines de milliers. Et ils vont vous suivre. Hein, et ils vont aimer ce livre, c'est certain, Jean-Baptiste Andréa, Veillez sur elle, qui s'annonce un énorme succès. Il y a 350 000 exemplaires déjà à l'imprimerie. Ça veut dire que c'est une autre forme de relation avec les lecteurs.
J'ai eu une chance inouïe, moi, c'est que dès mon premier roman, j'ai eu un lectorat qui était d'abord petit et qui a grandi et qui m'a suivi sur tous mes livres. Et il y a des gens qui vendaient plus, mais qui pouvaient vendre à des gens différents. Et moi, je voyais ce lectorat qui grandissait et qui m'a été incroyablement fidèle. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux. Et si aujourd'hui il grandit, super, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là et dont j'ai toujours senti la présence.
Oui, ça met une pression, mais de dire au fond, oui, donner du bonheur au lecteur. Parce que là, c'est vrai que c'est un livre qui donne du bonheur au lecteur.
Moi, je suis très égoïste. Quand j'écris, j'essaie de me donner du bonheur à moi. Et je me dis, si je me donne du bonheur, j'espère que ce bonheur, je pourrais le communiquer et qu'il passera. Mais en fait, je pense paradoxalement pas au lecteur. J'ai pas envie d'écrire en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on me demande? Sinon, je réduirais tout d'un coup le champ des possibles. Donc, je me fais plaisir. Et puis, si ça fait plaisir à quelqu'un d'autre, c'est vraiment la plus belle des récompenses.
Ouais. J'ai lu quelque part, je sais plus, vos souvenirs d'enfant, dans votre livre, vous lisiez les premiers bouquins. Il y avait, je sais pas, c'était quoi vos premières lectures?
Oui, voilà. Mes premières lectures, Fantomètre.
Ouais. C'était Fantomètre. On doit tout ça à Fantomètre.
On doit tout ça à Fantomètre. Moi, mon premier héros était une héroïne, c'était Fantomètre. Et je pense qu'effectivement, probablement que mes héroïnes fortes qui sont dans mes trois bouquins doivent à cette fille Fantomètre.
Oui. Bon, là, on va découvrir Gio, là. Voilà. Hein.
Viola.
Ouais, vous ne l'oublierez pas après. Merci beaucoup Jean-Baptiste André. Merci. A payé sur elle le prix Goncourt 2023. Bravo, bravo. C'est un livre absolument formidable. Vous allez être tellement nombreux à le lire, à aimer cet univers et à aimer Jean-Baptiste André. J'étais vraiment très fier de vous recevoir.
Merci.
Merci encore accueilli. Jean-Baptiste.
Merci beaucoup.
Bonjour, bonjour. Le Festival international du film francophone Ciné Franco revient du 3 au 11 novembre au Cinéma Carlton et Poporusso est très fier d'être parmi les partenaires privilégiés de ce festival de films unique à Toronto. Et oui, cette 26e édition est imprégnée d'amour, nuancée de drames, de comédies, d'histoires inattendues. Des sujets d'actualité et d'histoire se reflètent dans des films originaux et percutants. Du 3 au 11 novembre, au Cinéma Carlton. Ciné Franco vous réserve d'incroyables surprises, une panoplie de films avec des grosses vedettes du moment, des actrices à couper le souffle, telles que Virginie Efira, Catherine Froh, Karin Viard et la sublime Lynn Renault. Du 3 au 11 novembre, au Cinéma Carlton. Et poursuivant sa tradition, Ciné Franco accueille la tournée Québec Cinéma, porteuse de films magnifiques où l'amour se conjugue avec des émotions fortes. Du 3 au 11 novembre, Popourri Show vous y attend. Cinéma Carlton, Métro Collège. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner des laissez-passer. Eh oui, rendez-vous immédiatement sur le site cinéfranco.com ou popourrichaud.com. Coup de cœur, surprise, grand nom et découverte pour 9 jours de folie. Ciné Franco vous souhaite bon cinéma.
T'es magnifique.
Oui, tu me regardes.
Petit amour.
Bon, vous me le rendez?
Ah, oui, bien sûr.
Je suis ridicule. Vraiment que je change de métier, ça devient trop dur.
Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques, l'alcool est un facteur aggravant. Et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça va vous soigner de quelque chose.
Bonjour, je vais passer pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation. C'est confirmé?
Oui, jeudi.
Vous pouvez m'appeler Hortense.
Moi, c'est Jacques.
Vous allez la pécho.
Ça va pas bien, vous?
Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques.
C'est fini, là, oui. Une dégustation se déroule toujours en 3 étapes. L'aspect visuel, ensuite on va sentir le vin, et après on le goûte.
Un peu comme avec une femme.
Alors non, pas vraiment.
Tout va bien, j'ai ripé.
C'est un peu idiot hein, de dire ça, mais j'ai l'impression de te connaître depuis super longtemps.
Je rêve d'avoir un enfant, alors je me mets à vouloir aller plus vite que la musique.
Oui, ben là, vraiment un peu trop vite. Moi, je peux pas m'occuper d'un gosse.
Toi aussi, t'as perdu quelqu'un de cher?
Quand la vie est un peu trop grise, ça fait du bien. Un petit coup de rouge.
Elle est comment?
Très cato.
Ah, sang du Christ.
Bien. Et oui, c'était la bande-annonce du film La Dégustation à 14h aujourd'hui. Dernière chance au Festival Ciné Franco qui vous donne rendez-vous. Et oui, une comédie romantique mais ancrée dans une réalité d'aujourd'hui. Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Yvan Calvérac, créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. Synopsis. Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vin au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif, est déterminée à ne pas finir vieille fille comme un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier de dégustation. La 26e édition de Ciné Franco se termine aujourd'hui. 3 films très intéressants à voir absolument ce dimanche. Aussi à l'affiche, Omar à la fraise de Elias Belkadar à 16h30 et le film de clôture Tirailleurs de Mathieu Vadepied à 19h mettant en vedette Omar Sy.
Et je vous rappelle que les projections auront lieu au Imagine Cinema Carlton. C'est le métro Collège, très facile d'accès. Les billets sont disponibles sur imaginecinema.com/cinema/Carlton ou sur notre site popourishow.com. La dégustation, un film à voir absolument, Ivan Calberat, Quand le vin devient un langage. À 14h au cinéma Carlton, métro Collège, tous les détails sur cinefranco.com. Et voici un extrait d'un entretien capté sur le vif sur France Bleu, France.
Ciné, théâtre, télé, humour, la scène culture est chaque soir sur France Bleu. David Lontin.
Et merci de nous retrouver comme tous les soirs depuis ce début de semaine sur France Bleu, c'est la rentrée hein, avec ce nouveau rendez-vous dédié à la culture. Ce soir, on parle cinéma avec la sortie dans les salles aujourd'hui du nouveau film de Ivan Calberat, La Dégustation, avec dans les rôles principaux la comédienne Isabelle Carré et le comédien Bernard Campan. Et ils sont mes invités de la scène culture ce soir. Ils entrent dans le grand studio France Bleu. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Bernard, ou plutôt devrais-je dire bonsoir Hortense et bonsoir Jacques.
Oui.
Les deux personnages hein, que vous incarnez dans ce film, de personnages que vous connaissez bien, puisque vous les avez déjà incarnés sur scène, au théâtre.
300 fois.
300 fois. Mmh.
Mais là, c'est pas une pièce filmée, hein. Attention, hein. C'est un vrai film, et il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites pour que ça soit justement qu'on sorte de la cave de Jacques,
ouais,
et qu'on ait un beau film avec des belles images, des beaux décors et des belles scènes à jouer.
Alors justement, le pitch de cette comédie romantique, c'est l'histoire de Jacques, donc vous, Bernard, divorcé, un peu bourru quand même, vous tenez seul une petite cave à vin au bord de la faillite, et puis il y a jusqu'au jour où Hortense, vous Isabelle, sage-femme, engagée, militante, hein, vous êtes déterminée à ne pas finir vieille fille, et vous allez pousser la porte de cette cave à vin de Jacques, et là il va se passer forcément des choses, on ne va pas boire que du vin. Il va y avoir une belle dégustation.
On boit pas que du vin. C'est, enfin, logiquement, on boit que du vin. Hein,
mais, logiquement.
Oulala. Et vous voulez savoir quoi, jeune homme? Alors, dites-moi cette vite.
Je veux tout savoir de ce film. Évidemment, on va pas tout dévoiler.
Bah, disons que je me jette un peu à son coup. C'est moi qui ai la première. Voilà, le coup de foudre, il vient de moi au départ.
Voilà, c'est ça.
Et après, il va falloir convaincre cet homme un peu. C'est comme un peu comme un ermite dans son antre, quoi, dans sa grotte.
Casser la carapace de cet homme, et ça se fera pas d'ailleurs tout seul. C'est-à-dire que Hortense va être aidée par un jeune homme qui s'appelle donc Munira Mamra, le comédien, Steve, qui va servir un peu de trait d'union, qui va permettre à nos deux personnages de se retrouver.
C'est notre Cupidon, mais le vin aussi va nous aider, le vin, parce que
désinhiber un peu tout ça.
Il y a une dégustation qui est le cœur du film, une séance de dégustation, et grâce au vin, les langues un peu se délient, en tout cas pour mon personnage.
Ouais. Alors Isabelle, il paraît que passer de la scène au cinéma, ça a été une vraie volonté aussi de votre part. C'est vous qui l'avez imposé, dites-vous, à Ivan.
Imposé, bon, elle n'a pas mis le couteau sous la gorge non plus, il a eu envie. Hein, ouais. Mais c'est vrai que c'est une idée qu'on a eue avec Bernard, parce que Ivan avait déjà adapté plusieurs de ses pièces. Certains se souviennent de L'étudiante et Monsieur Henri, de Venise n'est pas en Italie. Voilà, et c'est vrai que on a été voir Ivan le jour en fait de la cérémonie des Molières. Nous avons reçu le Molière de la meilleure comédie grâce à Ivan, grâce à cette pièce, et on lui a dit mais alors pourquoi pas nous?
Et il a dit oui. Il a beaucoup hésité ou quand même
Non, il n'a pas hésité, convaincant. Mais ça faisait pas partie de ses plans tout de suite, puisqu'Ivan a beaucoup de projets. Mais on lui a demandé si possible de le faire passer en priorité. Voilà,
je lui ai parlé de l'horloge biologique.
Ah voilà. Alors il y avait quand même une condition, et ça vous en parlez, c'est le fameux club des cinq. C'est-à-dire que vous étiez au cinéma, mais il fallait que les cinq sur scène soient à l'affiche aussi du film.
Oui, parce qu'on a vécu, comme dit Isabelle, 300 représentations. Ouais. Ça a été une aventure extraordinaire avec donc Munira Mamra, Éric Vielard, Olivier Clavry. On était donc 5 sur scène tous les soirs. On avait notre petit rituel, nous retrouver tous ensemble d'ailleurs avec les techniciens, tout le monde, et on disait un petit mot pour se motiver, pour essayer de voir sous quelle forme on allait aborder, sous quelle humeur on allait aborder la pièce. C'était vraiment magique ce qu'on a vécu.
On appelait ça le cercle.
Et quand il a été question de faire le film, nous on a dit à Ivan, qui était évidemment d'accord, surtout tout faire pour qu'on soit les cinq
garder
ensemble.
Le cercle,
souvent au cinéma, on remplace certains seconds rôles, et et là on y tenait tellement, ça c'est fait, on est super contents.
Et la dégustation sort aujourd'hui dans les salles. Voici un extrait de la bande-annonce.
T'es magnifique.
Oui, tu me regardes.
Petit amour.
Bon, vous me le rendez?
Oui, bien sûr.
Je suis ridicule. Vraiment que je change de métier, ça devient trop dur.
Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques, l'alcool est un facteur aggravant. Et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça vous soigne de quelque chose.
Bonjour, je vais passer pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation. C'est confirmé?
Oui, jeudi.
Vous pouvez m'appeler Hortense.
Moi, c'est Jacques.
Vous allez la pécho.
Ça va pas bien, vous?
Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques.
C'est fini, là, oui.
La dégustation d'Ivan Kelberak en salle aujourd'hui. Alors, c'est vrai, au centre de cette histoire, le vin, hein, qui va réunir ces deux âmes seules, cabossées par la vie quand même, que sont encore Hortense et Jacques, joués par vous deux, hein, Isabelle Carré, Bernard Campan. Sans déflorer le film aussi, La dégustation, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Isabelle, mais va s'installer une séduction entre vous deux. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément où vous allez nous conduire, parce que le jeune homme en face de vous, il est difficile.
Ben oui, c'est ce que vous dites. Ils sont cabossés. C'est deux êtres qui ont été d'une façon différente. Voilà, ils ont une vie derrière eux. C'est une histoire de seconde chance. Ce film est de seconde chance pour des gens qui ont déjà du vécu.
Ouais.
Et donc, ce que dit Yvan, c'est vrai que c'est facile quand on est jeune de se lancer et on se jette comme ça dans des histoires et on verra bien. C'est plus compliqué quand on a eu déjà qu'on s'est pris deux trois portes.
Et Isabelle, vous dites-vous que vous aimez jouer l'intériorité justement des personnages. Et là, vous avez un beau rôle avec celui d'Hortense hein, pour jouer cette intériorité.
Oui, ce qui était merveilleux dans la proposition de d'Ivan Kelberak, c'est que quand on était dans la pièce, on restait vraiment dans la cave, il y avait qu'un seul décor évidemment, et là on suit Hortense dans sa solitude, dans voilà le fait qu'elle est effectivement elle est sage-femme, donc on la voit avec les bébés et son désir d'enfant, je parlais tout à l'heure d'horloge biologique, elle est dans ce désir d'enfant qui urge, qui y a une urgence. On la voit aussi avec sa mère qu'on voyait pas, voilà, et on la voit seule aussi. C'est deux solitaires, ces deux personnages là, mais deux solitudes qui vont Dieu merci s'épauler. Et voilà, enfin, on ne va pas tout dévoiler, mais il va y avoir quelques embûches hein, quand même. Hein.
Alors, Bernard, c'est pas la première fois hein, que vous êtes réunis tous les deux au cinéma. Évidemment, on va repenser au film Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman en 2002, donc 20 ans pile poil.
20 ans.
C'est un bel anniversaire. Mmh,
20 ans. Ah, bah, c'est vrai, ouais. Ah,
oui, tout à fait. Bah, oui, on est bien conscients. Tellement heureux que. De la chance qu'on a de se retrouver.
Ah, oui. Qui vont nous proposer ça et pourquoi personne n'y a pensé avant
ça, mais c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est la question que je me suis posée, mais pourquoi et comment personne n'y a pensé avant, vu le succès de ce film et ce beau duo que vous formez tous les deux.
Il n'y a même pas eu un projet qu'on aurait refusé.
Non, c'est ça. C'est vrai que c'est Yvan qui a eu cette idée de... Non, c'est vraiment superbe de se retrouver dans cette pièce-là. Non, vraiment.
Et alors, comme 20 ans en arrière, les premières scènes, comment vous les avez vécues tous les deux au cinéma?
Alors c'est pas les premières scènes, je sais pas, mais c'est vraiment c'est retrouvailles quoi, c'est de se retrouver avec cette simplicité qu'a Isabelle, cet échange tout naturel, tout fluide qu'on a vraiment entre nous, ça c'est du plaisir, c'est du bonheur. Isabelle, elle est voilà, on a toujours un peu peur tous les deux des comédiens qui peuvent être un peu compliqués, avoir des égos un peu particuliers. J'avoue que voilà, avec Isabelle, notre credo c'est vraiment entre gens voilà qui ont leur talent bien sûr, mais qui ne cherchent pas à compliquer les situations. On peut aller loin, on peut vraiment donner beaucoup, beaucoup plus, quoi.
Et le résultat est vraiment très beau, c'est à découvrir au cinéma. Aujourd'hui, c'est un vrai coup de cœur France Bleu, La dégustation. On va continuer d'en parler dans...
Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Pourtant tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, j'suis là, j'fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais j'finirai jamais tout seul à m'armer en fait TB. Mais la tête est sur les épaules, j'vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais, ah ouais.
Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé.
Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des lobas.
Tous les matins.
Pour acheter bijoux à la Mama Nova.
Ice.
La Gosa m'a pris pour son Casanova.
Pour un pigeon, ouais.
Elle me dit bébé, s'te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais.
Fallait pas déconner. Partir en premier. Une arme de poing, on laisse les lourdes grenier. Faux frérot, je veux plus sur mon palier. Clock, je suis bien accompagné. Je suis avec ceux qui gonflent du sale. L'ennemi voudrait nous voir au sol. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé.
Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des lobas.
J'lève tous les matins.
Pour
lâche tes bijoux à la Mamanova. Ma gosse m'a pris pour son Casanova. Elle me dit bébé, s'il te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais, yeah.
Fallait pas déconner.
Américain. Américain. Hey. Soul King.
Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à marmer en fait TB. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais, ah ouais.
Hey. Fallait pas déconner. Hey. J'ai déjà décollé. En premier, une arme de poing, on laisse les lourdes grenier. Faux frérot, je veux plus sur mon palier. Clock, je suis bien accompagné. Je suis avec ceux qui gonflent du sale. L'ennemi voudrait nous voir au sol. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé.
Fallait pas décoller. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des lobas.
J'lève tous les matins.
Pour acheter bijoux à la Mamanova. Ma gosse m'a pris pour son Casanova.
Pour un pigeon,
elle me dit bébé, s'il te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais.
Fallait pas déconner.
Américain.
Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé.
Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des lobas.
J'lève tous les matins.
Pour acheter bijoux à la Mamanova. Ma gosse m'a pris pour son Casanova.
Pour un pigeon,
elle me dit bébé, s'il te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais,
fallait pas déconner.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans.
RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Le fait de vivre en français, c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est une identité. C'est un peu plus facile peut-être de la vivre au Québec, étant donné que notre province est francophone majoritairement, mais de savoir que cette francophonie-là est pas canadienne, donc en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, ou encore dans l'Est avec les provinces maritimes, nos territoires, Yukon, Nunavut, etc. De savoir que ces gens-là continuent de défendre et de parler français et que cette langue-là soit aussi belle et aussi riche, même entourée de l'anglais, qui est une autre belle langue, soit, mais notre français, faut le défendre. Faut le vivre.
Racisme, sexisme, homophobie, islamophobie. Eh oui, compte tenu de l'augmentation du nombre d'actes de racisme et de discrimination envers les francophones issus de la diversité, Popourri Show présente le racisme et l'homophobie au sein de la francophonie d'ici et d'ailleurs. Des témoins victimes nous ont raconté leurs expériences. De la plus ordinaire à la plus violente, dans l'espoir que le témoignage serve à quelque chose. Popourri Show, CUT, 89,5 FM, 36 ans. Chaque dimanche, 11h à 13h, sur www.cut.fm ou popourrishow.com. Une initiative pour répondre aux recommandations de la Commission ontarienne des droits de la personne annoncée en mars 2023. Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
Organisé par le peuple, pour le peuple. CUT 89,5 FM et le son de votre ville. Montrez votre soutien en faisant un don en ligne sur CUT.fm afin de nous garder sur les ondes.
Et oui, du 13 au 19 novembre, je vous invite personnellement à faire un don à Popourri Show, la seule, l'unique émission en langue française sur CUT-FM depuis 36 ans. Et j'ai le plaisir d'offrir une paire de billets pour un concert exceptionnel, des sons sensationnels de l'Okavango African Orchestra au Redwood Theatre le samedi 2 décembre. Venez célébrer avec nous leur nouvel album, Migration, lors d'un concert spécial dans un magnifique théâtre historique. De multiples instruments, langues et pays définissent l'Okavango African Orchestra de Toronto. Un ensemble primé au prix Juno, composé de 8 musiciens d'origine africaine vivant à Toronto et à Montréal. CUT 89,5 FM compte sur vous pour sa survie. Eh oui, faites un don sur www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate et écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Et voici un extrait de l'univers de Okavango African Orchestra.
Zeniwa de dende, Zeniwa. Pete, pete, Zeniwa de dende, Zeniwa.
Oh, my Mary, farewell.
Zeniwa de dende, Zeniwa.
Attention, s'il vous plaît. Le Festival international de films francophones Ciné Franco revient du 3 au 11 novembre au cinéma Carlton. Et Popourri Show est très fier d'être parmi les partenaires privilégiés de ce festival de films unique à Toronto. Et oui, cette 26e édition est imprégnée d'amour, nuancée de drame, de comédie, d'histoires inattendues, des sujets d'actualité et l'histoire se reflète dans des films originaux et percutants. Du 3 au 11 novembre au cinéma Carlton, Ciné Franco vous réserve d'incroyables surprises, une panoplie de films avec des grosses vedettes du moment, des actrices à couper le souffle, telles que Virginie Efira, Catherine Fro, Karin Viard et la sublime Lynn Renault. Du 3 au 11 novembre, on vous y attend. Et poursuivant sa tradition, Ciné Franco accueille la tournée Québec Cinéma, porteuse de films magnifiques. où l'amour se conjugue avec des émotions fortes. Du 3 au 11 novembre 2023, Potpourri Show vous y attend au cinéma Carlton, Métro Collège. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner des laissez-passer. Rendez-vous sur le site cinéfranco.com ou potpourrishow.com. Coup de cœur, surprise, grand nom et découverte pour 9 jours de folie. Ciné Franco vous souhaite bon cinéma.
Omar Zerouki, plus connu sous le nom d'Omar Lafraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris par défaut.
T'as une bonne nouvelle ?
La patrie de ton père, Djazaïr, va te garder ici en sécurité, au soleil.
T'es 100% Djazaïr, wallah, ça m'émeut.
Là, je vais pouvoir crever ici.
Mahda bik Djazaïr.
C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France.
Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'autre ?
Il t'a dit quoi, l'avocat ? Si tu bouges l'oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard.
Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes.
Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles ? Tu veux me baiser ?
Tu veux le baiser ? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille.
Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire ? Faut commencer milliardaire.
Le style, ça me rappelle quelqu'un.
Vous êtes des durs, hein ?
Il aime le hout. Jamais je m'arrêterai.
Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé.
Eh frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme.
Sans se vanter, chico.
De la joie de vivre.
Je suis qui ? Je suis ta pousse, moi.
Et ses racines, je veux qu'il renoue avec.
Santé.
Ouais.
C'est même pas en bosse, ça suffit.
Yahoo! Pourquoi on l'appelle Omar la fraise?
Parce qu'il opère ta dentiste.
C'était la bande-annonce de Omar la fraise, film à l'affiche ce dimanche. C'est la dernière journée, la dernière chance. Festival Ciné Franco à 16h30 au Imagine Carlton Cinéma. Les billets sont disponibles sur imaginecinema.com/cinema/Carlton. Omar la fraise, un film drôle et tendu, flirtant parfois avec l'humour sanglant. Omar la fraise, un polar tarantinesque à Alger avec Benoît Magimel et Reda Kateb. Omar la fraise, premier long métrage du franco-algérien Elias Belkadar, présenté en séance de minuit à Cannes cette année. L'autodérision à l'algérienne, l'art de la violence à l'écran, le recul sur leurs films, tous les détails sur cinéfranco.com ou popourichaud.com. Et on est allé rencontrer justement Reda Kateb et Benoît Magimel au Festival de Cannes 2023 pour parler de l'électrique Omar la fraise. En voici un extrait.
Hey, le pain café. C'est festival de Cannes ou quoi ?
C'est vrai, hein. On est là à boire de l'eau.
L'humour, l'autodérision, c'est un kit de survie pour les Algériens. C'est-à-dire que ça a toujours été un outil de résistance, un outil de résilience, une manière d'échapper finalement à un moment où... Quand on est avec un ami, que peut-être on a juste de quoi acheter un sandwich, à se partager à deux et tout ça, et qu'on manque pas de temps, bah ce temps on le remplit en disant des bêtises, en rigolant. Et les Algériens sont champions du monde de ce sport-là. Ouais.
La surprise, c'est de voir un peuple, un pays qui a vécu des tragédies, une jeunesse extrêmement présente. Et c'est fou, cette force de jeunesse qui a souffle de vie, ces contradictions et ce sourire en permanence, cette fierté. On voit les enfants, on voit très jeunes, ils ont déjà un vécu très fort. Et effectivement, ce sourire est déstabilisant parce que, comme ils disent, quand tu veux réussir en Algérie, il faut être né milliardaire. Si t'es mal né, c'est compliqué d'y arriver. C'est difficile d'y arriver. Et pourtant, ils vivent et ils aiment leur pays. Pour ce film, la caméra est entrée à des endroits où personne n'était jamais venu. Il y a des zones de non-droit en Algérie aussi, quoi. C'est un pays très complexe, il y a énormément de complexité, de contradictions.
Et pour nos personnages, il y a un côté Far West, quoi. D'ailleurs, bon, qu'on voit aussi dans les paysages, c'est du désert et tout ça. Ouais. Mais il y a un côté, même pour Roger, qui dit, voilà, tout est possible. Il y a tout à faire encore dans ce pays et il y a un potentiel extraordinaire. Ça, c'était vraiment présent déjà dès le départ dans le scénario. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un film qui s'assigne à un genre, qui vous annonce que vous allez rire et donc vous allez être forcé à rire. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un des trucs vraiment qui m'ont plu dès le départ dans le scénario. C'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est souvent le défaut des premiers films de vouloir mettre trop de choses, raconter trop de choses. Mais là, il y a quelque chose, je trouve, de vraiment tenu. Et quand on est dans le rire, on l'est vraiment. Mais à un moment, on peut peut-être, en tout cas, être effrayé, ému par ces personnages. On peut peut-être avoir le sentiment d'avoir passé un peu de temps avec eux, de les avoir un peu rencontrés, de pas les avoir vus trop à distance, quoi.
Moi, j'ai eu le scénario très peu de temps avant le tournage. Je me suis engagé parce que j'étais touché par le réalisateur, parce qu'il y avait, j'ai vu quelque chose de personnel, très personnel pour lui, de réaliser ce film. En revanche, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas tout le temps convaincu. Et notamment, je trouve qu'il y avait des moments d'humour qui pouvaient me déranger parce que faut pas en faire des guignols. Et juste pour faire marrer, voilà. C'est des hommes qui ont une vie compliquée, ils viennent d'un univers difficile, ils restent libres, donc c'est aussi des enfants en soi. C'est important de montrer aussi que c'est pas que des gens qui sont tout le temps avec le visage fermé. Ils s'amusent, ils prennent du plaisir, ils sont amis depuis très longtemps. Et donc, la violence, moi je répétais sans cesse au réalisateur, la violence, elle, parfois je la trouvais un peu trop douce, et je disais, il faut que ce soit quelque chose de saisissant. Entre les moments où on s'amuse, ou les moments où on les trouve très drôles et sympathiques, et le moment où tout d'un coup on voit une violence qui s'exprime, qu'elle soit vraiment, qu'elle tranche totalement. Sinon c'est pas, ça manquait de sérieux pour moi. C'était pas un film pour faire pour faire marrer tout le temps.
Et puis on l'a pas joué comédie en fait. Ça gloussait pas sur le plateau, on n'était pas là à faire rire l'équipe, on se plongeait totalement dans les situations. En se disant de temps en temps que ça pourrait peut-être faire rire une salle lors de la projection.
Vraiment, il y a des choses qui ont évolué naturellement en plus. C'est bien un scénario qui est en mouvement. C'est ce qui se passe en général avec quand on est vraiment en symbiose avec le réalisateur, les acteurs. On arrive quand même à pouvoir faire évoluer les choses parce qu'on comprend les choses au fur et à mesure. On comprend notre problématique à chacun. On la découvre aussi pendant le tournage. Tout n'est pas clair. C'est comme de voir un film trop tôt. J'aime pas voir les films peu de temps après les avoir faits parce que je peux pas les comprendre. J'ai besoin pour comprendre l'histoire réellement d'avoir je sais pas, un an, deux ans. Si je pouvais les voir deux ans après, je les comprends mieux, je les regarde mieux, je les vois mieux, tu vois. J'ai de la distance avec ce que j'ai fait.
Et je pense qu'il faut, ouais, il faut lâcher cette chose-là, ce besoin qu'on pourrait avoir de maîtriser ce qu'on fait.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci. France Inter.
Il tue pour n'importe quoi. Il tue pour de l'argent, il viole, il kidnappe. Nous autres, on a une idéologie. Je ne vole pas, je ne kidnappe pas. Je ne suis pas pour rien.
La seule et l'unique émission à Toronto renouvelle son partenariat avec Radio France Internationale pour vous présenter en exclusivité le journal d'Haïti et des Amériques. Un regard et des perspectives par des correspondants haïtiens. Chaque dimanche sur Popourri Show, 11h, 13h, sur CUT 89,5 FM. Rejoignez les quelques 3 millions d'auditeurs pour vous informer de ce qui se passe réellement en Haïti. Alors, on vous y attend.
donc Nathan Ou.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24 à 7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton « Donate » pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
Et oui, du 13 au 19 novembre, je vous invite personnellement à faire un don à Popourri Show, la seule, l'unique émission en langue française sur CUT-FM depuis 36 ans. J'ai le plaisir d'offrir une paire de billets pour un concert exceptionnel, des sons sensationnels de l'Okavango African Orchestra au Redwood Theatre le samedi 2 décembre. Venez célébrer avec nous leur nouvel album, Migration, lors d'un concert spécial dans un magnifique théâtre historique. De multiples instruments, langues et pays définissent l'Okavango African Orchestra de Toronto. Un ensemble primé au prix Juno, composé de 8 musiciens d'origine africaine vivant à Toronto et à Montréal. CUT 89,5 FM compte sur vous pour sa survie. Et oui, faites un don sur www.cut.fm et cliquez sur le bouton « Donate » et écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Et voici un extrait de l'univers de Okavango African Orchestra.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca.
Et oui, c'était le lancement du roman Wellsford de Claude Guillemin aux éditions Prise de Parole au Bloom Bar Studio rue Saint-Clair le 6 novembre dernier. Malheureusement, je ne pouvais pas y être. L'action de Wellsford se déroule en 2019 et 1969, l'époque de la guerre du Vietnam, de Woodstock et des premiers pas sur la Lune. On retrouve ces éléments avec la fameuse piscine dans la couverture créée par l'artiste et notre ami José Durando, à qui nous saluons chaleureusement. Entouré d'amis et avec sa compagne, la comédienne Louise Nobert, Claude Guillemin a répondu aux questions de Dominique Denis. Et vous trouverez un très bel article dans le dernier numéro de l'Express de Toronto. Voici un petit montage, bruitage, la voix de Claude Guillemin. En arrière-plan, que j'espère inviter très prochainement sur notre antenne. Le roman Wellsford de Claude Guillemin aux éditions Prise de Parole. Priseparole.ca. Bonne lecture.
C'était pas mon intention. J'ai pas commencé tout ça avec l'intention d'écrire un polar. Je crois que des gens qui écrivent des polars, qui savent ce qu'ils font. font une planification, il y a des indices, on arrive pour essayer d'arriver à une conclusion que personne ne va deviner. C'était pas du tout le but. Mais ça, tout ça a commencé à un moment donné, j'étais sur la rue Don Mills, et puis il y a encore aujourd'hui une pancarte qui dit « Don Mills, Canada's first planned community ». Donc, je connaissais cette pancarte-là parce que j'ai habité, il y a 50 ans, j'ai habité dans ce quartier-là, puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça?
Votre attention, s'il vous plaît. Le Festival international de films francophones Ciné Franco revient du 3 au 11 novembre au cinéma Carlton. Et Popurusho est très fier d'être parmi les partenaires privilégiés de ce festival de films unique à Toronto. Et oui, cette 26e édition est imprégnée d'amour, nuancée de drames, de comédies, d'histoires inattendues, des sujets d'actualité, et l'histoire se reflète dans des films originaux et percutants. Du 3 au 11 novembre au cinéma Carlton, Ciné Franco vous réserve d'incroyables surprises, une panoplie de films avec des grosses vedettes du moment, des actrices à couper le souffle, telles que Virginie Efira, Catherine Froh, Karin Viard et la sublime Lynn Renault. Du 3 au 11 novembre, on vous y attend. Et poursuivant sa tradition, Ciné Franco accueille la tournée Québec Cinéma, porteuse de films magnifiques où l'amour se conjugue avec des émotions fortes. Du 3 au 11 novembre 2023, Popourri Show vous y attend au Cinéma Carlton, Métro Collège. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner des laissez-passer. Rendez-vous sur le site cinéfranco.com ou popourrichaud.com. Coup de cœur, surprise, grand nom et découverte pour 9 jours de folie. Ciné Franco vous souhaite bon cinéma.
Du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français.
En position,
plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous la remplaciez.
Et oui, c'était la bande-annonce Les Tirailleurs de Mathieu Vanpied à 19h, mettant en vedette Omar Sy. C'est le film de clôture de Ciné Franco au cinéma Carlton ce dimanche, à ne pas rater. Mémoire de Tirailleurs, un film historique qui a suscité polémique dans certains milieux en France. Si plusieurs critiques ont souligné une réalisation lourdingue et une interprétation sous le signe de la naïveté, à la surprise générale, la reconstitution historique qui évite l'écueil d'une vision victimaire a semblé faire consensus. La présence de soldats noirs dans l'armée française, qui peuvent être lieutenants ou capitaines, ne manquera d'ailleurs pas de choquer les Américains. Dans le corps expéditionnaire débarque en France à partir de 1917. Les Américains qui pratiquent la ségrégation et cantonnent les Noirs essentiellement à des tâches d'intendance écriront officiellement au gouvernement français pour se plaindre. Il faudra attendre des années 1940 pour que l'on s'occupe vraiment de ces anciens combattants, dont un grand nombre sont mutilés de guerre. Les Tirailleurs sénégalais sont aujourd'hui dans tous les manuels scolaires. Et oui. Tirailleurs, film de clôture à 19h ce dimanche au cinéma Carlton. Deux paires de billets pour les personnes qui m'écrivent immédiatement à popourri@cut.fm. Faites vite. L'acteur Omar Sy était au micro de la radio RTL Paris pour répondre aux critiques sur ses propos au journal Le Parisien. En voici un extrait. Bon cinéma.
Acteur, c'est aussi l'une des personnalités préférées des Français. Bonsoir Omar Sy.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Vous serez demain au cinéma à l'affiche de Tirailleurs, réalisé par Mathieu Vadepied.
Tout à fait.
Vous coproduisez également ce film. On en est partenaire et on en est ravis parce que c'est un film qui est nécessaire, très fort, bouleversant, sur les tirailleurs africains envoyés au front lors de la Première Guerre mondiale. Vous y jouez Bakary, un papa qui s'enrôle dans l'armée pour protéger son fils qui, lui, a été recruté de force. 200 000 Africains ont combattu pendant la Grande Guerre, 30 000 sont morts, et pourtant, beaucoup de spectateurs vont découvrir cette histoire en regardant votre film. C'est une histoire qui est méconnue, qui ne saute pas aux yeux dans les manuels scolaires de nos gamins. Je crois que c'est même une histoire que vous avez découvert assez récemment.
Ouais, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, en fait. Non, les tirailleurs, en fait, pour être plus précis, les tirailleurs, pour ma part, c'était plus ce qui concernait la Seconde Guerre mondiale. Parce que il y a le fameux massacre de Charroy, tristement célèbre par rapport à ces soldats qui demandaient leur indemnité et qui finalement ont été tués. Ouais. Donc, pour moi, les tirailleurs étaient plutôt associés à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand je rencontre Mathieu Vadepied il y a 10 ans.
Sur le tournage d'Intouchables.
Exactement. Ouais. Parce qu'il était chef opérateur, donc à la cantine, il me parle de son envie d'être réalisateur et de ce film. En me posant la question suivante, et si le soldat inconnu était un tirailleur ? Et là, moi, ça m'interpelle parce que du coup, il y a un truc dans je vois bien la frise dans ma tête avec les dates qui correspondent pas bien. Je dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et puis finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus tôt que ça, en fait. Les tirailleurs, en fait, ils ont fait la Première Guerre mondiale. Ils ont même participé eux-mêmes victimes du colonialisme. Ils ont aussi aidé la France à conquérir d'autres territoires, etc. Donc, tout ça, en fait, je m'y intéresse à ce moment-là parce qu'effectivement, j'avais pas tout ce détail-là et surtout j'avais pas les bonnes dates. Et en fait, associer les tirailleurs et les poilus, c'était pas quelque chose de simple pour moi. Et je crois que les gens vont, il y en a, je pense beaucoup en voyant le film, qui vont le découvrir qu'en fait que les tirailleurs sont des poilus des colonies en fait.
On dit en plus tirailleurs sénégalais, mais il faut quand même préciser que ça regroupait tous les tirailleurs africains.
Africains, subsahariens.
Absolument. Oui. Vous qui êtes d'origine sénégalaise, de quelle manière est-ce qu'on parle de ça? C'est le pays de votre papa. Oui. Comment est-ce qu'on en parle là-bas? Est-ce que c'est un sujet? Parce que nous, dans nos manuels d'histoire, c'est quelque chose qui est quand même quasiment absent.
Nous, c'est un sujet, bien sûr. Il y a des récits. On voit d'anciens tirailleurs avec des uniformes. Moi, pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'avais le voisin et ami de mon grand-père qui lui avait fait l'Indochine, qui se baladait avec son uniforme et tout ça. Alors c'est un mélange de fierté d'avoir porté les couleurs et d'avoir servi la France, et en même temps un peu de honte parce qu'en fait il y a eu de l'oubli, et ça parfois c'est douloureux. Alors tout dépend l'histoire de chacun, mais il y en a qui vont être fiers, qui vont parader avec leur uniforme et leur médaille, et d'autres qui vont mettre ça dans un placard, ils vont pas en parler parce qu'il y a une forme d'humiliation quand même. Le fait d'avoir été oublié, le fait d'avoir cru à une promesse qui n'a pas été tenue, il y a une forme d'humiliation. Donc c'est très partagé en fait.
On découvre ce morceau d'histoire à la fois de la France et de l'Afrique dans le film, et on découvre des faits. On découvre que beaucoup de combattants ont été à l'époque en relais de force. Il y a une scène de rafle dans le village des personnages. On arrachait des gamins à leur terre. Alors qu'ils ne parlaient parfois même pas le français.
Ben oui, pour la plupart, ils ne parlaient pas le français. Et c'est vrai que, encore une fois, sur les tirailleurs, beaucoup se sont engagés parce que il y avait des primes à la clé, il y avait la promesse de la nationalité française, donc beaucoup se sont engagés. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, il y en a aussi qui ont été en relais de force, en fait, dans certains villages où on voulait pas donner, où personne ne s'engageait, et qu'à un moment donné, quand il y avait un souci de rendement, parce que c'était quand même à l'époque le nombre qui comptait pour ces guerres-là, et ben ils enrôlaient de force. Bon. Ça, c'est une réalité aussi.
Et on parlait des différents peuples qui étaient au sein de ces tirailleurs. Il y avait des gens qui venaient de régions très différentes, donc des tirailleurs africains qui parfois ne se comprenaient pas. Mais... et d'ailleurs, le film le montre extrêmement bien, c'est très immersif. Vous jouez Bakary, qui ne parle pas français dans le film. Vous parlez la langue peul, et c'est un parti pris qui est très très réussi pour le coup.
Merci. Merci, on est très content de ça. Effectivement, on avait envie de montrer ça, justement, que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas tous sénégalais, et que y avait un problème de communication déjà entre eux, et en plus un problème de communication une fois arrivés sur place, parce que ils ne parlaient pas le français, parfois ils savaient même pas contre qui ils se battaient. Il y avait tout ça qu'on avait envie d'illustrer, et ça passe par un Bakary qui parle pas le français. Donc on a choisi le peul puisque c'est la seule langue africaine que je parle. c'était plus pratique. Mais oui, on est content de ce pari-là. C'était pas évident à la base, mais en fait, ça pouvait pas être autrement. On n'aurait pas pu avoir un Bakary avec un accent ou quelque chose comme ça. Ça aurait été étrange.
Mais il y a une chose qui rend le film encore plus fort et plus intéressant, c'est que ce fils, donc votre fils dans le film, qui est enrôlé de force, vous le suivez en vous engageant. Et quand ce gamin arrive dans les tranchées avec les autres soldats, on voit que les officiers français, donc blancs, l'intègrent et que même il a l'espoir, lui, de découvrir ce pays, d'apprendre ce pays, et que c'est affreux à dire, mais il se prend au jeu, il se dit, et si après c'était aussi mon pays? Il y a aussi ce chemin-là qui est intéressant.
Bien sûr, bah, en fait, dans ce chaos, dans toutes ces histoires mêlées, dans tous les destins possibles au milieu de cette guerre, mais il y a tout. Il y a ceux qui refusent, ceux qui acceptent, ceux qui sont contraints, ceux qui y arrivent, ceux qui n'y arrivent pas. En fait, il y a un peu de tout, et c'était intéressant pour nous de montrer un petit peu les deux. Celui qui reste ancré dans ce qu'il est, dans sa culture, et en fait aussi parce que la langue le protège quelque part, puisqu'il ne parle pas la langue. Il y a ce truc où il y a peu d'échanges, donc ça le permet de rester là où il est. Pour Tcherno, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est moins, on va dire, étanche, puisque lui, il parle la langue, il communique, ouais. Il parle le français. Donc du coup, il y a un échange avec les soldats français, les blancs. Et donc du coup, il y a un échange, et il est en plus à un âge où on rêve grand, où on a envie de s'émanciper, on a envie de grandir. Et lui, malheureusement, au milieu, dans ce contexte-là, ça passe par des médailles, ça passe par des faits d'armes.
C'est l'autre force du film, quelque part. Il y a aussi ce drame, cette relation père-fils avec ce fils qui échappe au père, et vous tentez à tout prix de le protéger. En fait, la portée universelle du film, elle est là. C'est-à-dire que ce film, il parle à tous les papas.
Exactement. Il parle à tous les papas et à tous les fils. Et c'est par là qu'on voulait passer, parce qu'en fait, je crois que la meilleure façon de faire connaissance quelque part avec ces tirailleurs, puisque c'est quand même ça notre ambition, c'est de raconter les tirailleurs, leur donner la parole, c'est passer par quelque chose qu'on a tous en fait dans notre humanité, cette relation en fait filiale père-fils, on la connaît tous d'un volet ou de l'autre, et même parfois des deux. Moi, pour ma part, c'est dans les deux sens, mais au moins ça, on sait que ça nous appartient à chacun en fait, et qu'on peut tous se relier à eux par rapport à ça. Donc effectivement, pour nous, c'est ça le centre de l'histoire, et derrière, on va amener un contexte qui nous raconte ces tirailleurs.
Puisqu'on parle de famille, et notamment de votre famille, la langue peul, justement, vous la parlez au quotidien, Omar, avec, je sais pas, avec vos parents,
avec
vos
mes
enfants?
Avec mes parents, oui, mes enfants, non, moins. Ils ont quelques mots, quelques phrases toutes faites comme ça, quelques formules, mais mes parents, oui, en fait, c'était important pour eux qu'on parle cette langue à la maison, qui est leur langue. Alors pourtant, mes parents parlent et lisent le français, mais c'était important pour eux qu'on ait cette langue-là, et que un jour on s'en serve. Alors je pense qu'ils pensaient plus au fait que je puisse marchander au marché quand je vais au Sénégal, mais ils pensaient pas que j'allais faire un film avec.
et vos gamins, à vous, de quelle manière vous leur avez fait vivre cette aventure-là et cette partie d'histoire de leurs racines? Ils vous ont suivi sur le tournage, par exemple?
Il y a un de mes fils qui est venu, les autres non. Non, en fait, c'était plus on a échangé sur les différentes étapes, quand je parle des projets en cours et des choses que je suis en train de faire, on échange là-dessus. J'ai une de mes filles qui est très branchée sur l'histoire, donc on en a parlé pas mal. Mais non, comme pour tout le monde, j'attends que le film soit fait et leur fait découvrir. Et donc quand ils ont vu le film, c'est là où on a vraiment eu une conversation là-dessus. Ils étaient assez secoués de découvrir certaines choses.
Vous l'avez présenté à Dakar, le film. Vous l'avez présenté à Verdun. Vous avez rencontré des lycéens au mémorial de Verdun. Vous avez visité un champ de bataille avec eux, et un reporter RTL était présent. Petit extrait, c'est un échange entre vous et un des élèves, Alexandre.
J'avais une question par rapport aux baïonnettes. On n'en voit pas beaucoup dans le film.
On a un spécialiste, Nicolas. Est-ce que tu peux nous aider?
Les tirailleurs sénégalais avaient sur eux une longue lame qui s'appelait le coupe-coupe, qui rentrait réglementairement dans leur équipement militaire.
Alors, excuse-moi, moi j'ai une question pour toi. T'es très précis là-dessus, t'as une passion particulière?
Je m'intéresse à l'histoire en général.
Alors du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce film, toi qui...
Moi j'ai bien aimé.
Non, mais tu peux nous dire ce qui t'a plu, ça m'intéresse.
Le sens qu'on voit, comment étaient justement enrôlés des fois de force les tirailleurs sénégalais.
Mais alors, est-ce que tu savais ça, par exemple, que les tirailleurs avaient été enrôlés de force pour certains?
Je le savais.
D'accord. Tu l'as appris comment?
Dans un musée, je crois, sans doute.
D'accord. Ah oui, ça aide de vivre pas loin de Verdun, quand même. Ok. Merci, mon gars. C'est comment ton prénom?
Alexandre Dubois.
Merci, Alexandre Dubois.
Merci.
Merci beaucoup.
Très chouette l'échange très avec Alexandre.
On salue Alexandre Dubois.
On le salue si nous écoute Alexandre Dubois. Mais on sent qu'il y a des échanges qui sont très enrichissants autour de ce film. Et d'ailleurs, RTL va consacrer demain à 7h15 du matin son RTL événement à cette rencontre entre vous et ces lycéens de Verdun. Parce que le reportage est très émouvant et notre reporter nous disait, on l'entendra demain matin sur l'antenne, que vous étiez très ému visiblement sur le champ de bataille, qu'il y a eu presque une minute de silence parce que finalement tout le monde s'est figé, tout le monde s'est tu après la lecture de certains textes par les élèves.
Ouais, c'était assez émouvant de se retrouver là-bas, surtout après cet échange avec les gamins, surtout avec tout ce qu'on a traversé avec le film et le film qu'on avait vu y a pas longtemps, donc on était encore dans cette atmosphère là et puis on avait cet homme là qui nous racontait les choses avec une telle passion qu'on avait la sensation d'y être. Il y avait cette prise du fort qui était tellement intense. On arrive là-haut et donc les élèves nous lisent les noms de certains tirailleurs qui se sont distingués pendant la prise du fort et en même temps en racontant un petit peu certains de leurs actes. Donc quelque part, oui, il y a cette minute de silence qui s'est posée là naturellement parce que c'était une façon c'était un hommage en fait. Et donc du coup je sais pas, le silence s'est posé là et il était bon, donc on l'a laissé vivre.
Il faut parler d'hommage, Omar. Il y a la pédagogie, évidemment, et elle est essentielle avec cette histoire-là. Il y a aussi les actes après d'une nation. Le dernier poilu et donc les derniers tirailleurs sénégalais sont morts maintenant depuis quelques années. On se souvient qu'en 2006, après la sortie d'Indigène, le film de Rachid Bouchareb, qui lui parlait des tirailleurs algériens de la Seconde Guerre mondiale, le président Chirac avait fait un geste en revalorisant les pensions. Est-ce que vous espérez ou attendez, je ne sais pas, un geste peut-être de la nation avec quand même quelques années de retard ou pas? Ou est-ce qu'il a eu lieu déjà à votre avis?
Non, je sais pas s'il a eu lieu pour les tirailleurs de la Première Guerre mondiale, puisque pour le coup on parle de cela. Alors il y a des tirailleurs qui sont encore en vie, donc s'il y a un geste à faire, ce serait plutôt vis-à-vis d'eux et quelque part pour ceux qui sont morts, ben saluer leur mémoire, ne serait-ce que pour apaiser la descendance. Moi j'attends rien de précis, à chacun de prendre ses responsabilités et faire ce qui lui semble bon et juste.
Indigène avait été montré à l'Élysée. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous pensez que Tirailleurs pourrait être montré au président Macron, par exemple?
Je ne sais pas si ça l'intéresse de le voir. En tout cas, c'est facile de lui faire une projo. Hein. Il n'a qu'à demander. Après tout, c'est lui le chef. Hein. Il demande, il a.
Bon, et en plus, il ne sera pas déçu. Parce que dans ce film, j'aimerais revenir sur votre performance, parce qu'elle est très marquante. Les Français vous ont adoré dans des comédies et on adore votre sourire, votre rire. Et là, on n'entend pas votre rire dans ce film. C'est un registre qui est très sobre. On vous a connu dans des registres graves, dans des films comme Samba, comme Chocolat. Mais là, c'est peut-être le film le plus grave que vous ayez eu à jouer, le rôle le plus grave que vous ayez eu à jouer. Ça a dû être une expérience. En plus, vous êtes filmé vraiment de très près, à l'épaule.
Oui, ça c'était étrange d'ailleurs. La façon de filmer, déjà pour commencer, pour moi c'était vraiment la chose la plus étrange, on va dire. Vraiment la vraie nouveauté et la chose qui quelque part m'a le plus déstabilisé dans ma façon de faire. Parce que jouer quelque chose, on va dire plus grave, plus dramatique, moi je fais pas vraiment la différence. J'ai quelque chose à jouer, je le joue et je l'aborde toujours un peu de la même manière. Je sens pas vraiment cette différence entre la comédie et le drame, moi, pour être honnête. C'est pas comme ça que j'aborde les choses. En revanche, la façon que Mathieu et Louis ont filmé, Louis qui est le chef opérateur, ils sont très près de nous et ça déstabilise parce qu'il y a un côté documentaire. Et ça, quand on est acteur, c'est étrange. On a l'habitude d'un certain dispositif. Ouais. Et là, d'un coup, c'est très, très près. On se dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et il faut s'habituer à ça. Et ouais, pour moi, ça, c'était un peu déstabilisant. Puis en plus, il y avait la langue, le peul, qui était quand même pas l'espace où je suis le plus bavard. Donc ça m'a rangé aussi quelque part. Mais il y avait un peu de ça. Mais le peul, en vrai, ça a été plus une aide, je crois. Parce que justement, j'ai pas la capacité d'impro que je peux avoir en français. Et puis ça va chercher chez moi quelque chose de très intime. Puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est ma langue maternelle. Donc c'est la première langue avec laquelle j'ai exprimé des sentiments, on va dire. Donc il y a quelque chose de très, très intime et très pudique là. Donc ça donne quelque chose de plus petit, de plus rentré. Et cette caméra tout près là, ça c'était un peu chelou. Il fallait se le prendre, mais je crois que le mélange des deux donne ça. et c'est pas mal aussi quelquefois d'être un peu bousculé et sorti de sa zone de confort.
L'autre personnage qui crève l'écran, c'est votre fils dans le film, c'est Alassane Diong. C'est votre neveu dans la vie. Je crois que vous avez dit au réalisateur, tiens, je connais un acteur quand même, rencontre-le. Pas de pression, mais rencontre-le. Il est vraiment bon.
Oui, parce que en fait, Alassane, donc oui, est mon neveu, donc je le connais très bien. Et donc c'est un acteur super. Je l'ai découvert aussi en fait. Je savais qu'il voulait jouer. Je lui ai filé quelques outils. Je l'ai laissé tracer sa route. Puis j'ai vu un jour un de ses courts-métrages. Puis je me suis rendu compte de l'acteur qu'il était en train de devenir. Et puis comme on était en train de travailler sur Tirailleurs, il nous fallait un jeune acteur qui parle peul, qui est bon. Il avait les trois. Donc je me suis dit c'est un peu dommage. Je vais pas faire de la discrimination. C'est pas parce qu'il est mon neveu qu'il va pas passer le casting. Donc j'ai dit à Mathieu, vas-y, rencontre. Et il a passé le casting et ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. D'ailleurs, ils vivent ensemble en ce moment.
Alors, avec ce film, vous êtes très présent dans les médias depuis quelques jours. Vous étiez beaucoup plus rare ces derniers mois et vos interviews sont disséquées. Elles sont interprétées aussi.
Beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais.
Je voudrais revenir avec vous sur les mots que vous avez prononcés dans les colonnes du Parisien hier. Vous disiez en substance que toutes les guerres étaient atroces, que vous n'aviez pas attendu la guerre en Ukraine pour vous en rendre compte parce que malheureusement, il y a des conflits qui brisent des familles en Iran, en Irak, en Afrique depuis des décennies. Et puis on a vu des élus de la majorité d'extrême droite réagir à une partie de vos propos. On a vu une polémique naître hier sur les chaînes d'infos. Le Parisien qui a réalisé l'interview s'est senti obligé de corriger le tir, de dire que vos propos avaient été sortis du contexte. Vous avez été surpris par ces réactions ? Peiné, agacé, je sais pas.
Presque à moitié, c'est une surprise, mais en même temps pas vraiment. C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il parle pas du tout de la guerre en Ukraine. Ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. On essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un manège qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL à cette heure-ci de le dire, on laisse pisser.
Mmh.
Ouais.
Mais vous dites c'est à chaque fois que je rentre. C'est-à-dire que des fois vous dites je ferais mieux de rester dans ma cachette.
Non, pas du tout. Alors là non. Alors croyez-moi, au contraire. Non, pas du tout. Je suis un peu habitué au mécanisme, mais ça va pas m'empêcher de faire des films, ça va pas m'empêcher de raconter les histoires que j'avais envie de raconter, d'essayer de sensibiliser et d'ouvrir d'ouvrir des conversations en fait, parce que ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est que des gens qui ont des discours et qui parlent et qui font des monologues d'une traite pour des articles qu'ils n'ont pas lus, pour des films qu'ils n'ont pas vus et puis ils font des débats, ils font des longs monologues comme ça, des grands discours parce qu'on est au début de l'année et puis il y a pas grand-chose à dire. Après je suis flatté moi de d'être un sujet plus intéressant que la galette des rois. C'est vrai que c'est plus intéressant de parler de moi que la galette des rois. Donc du coup, ils ont un truc à se raconter, qu'ils le fassent. Mais moi ça va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire au moment où j'ai à le dire, et puis après l'interprétation, les choses sorties de son contexte. En tout cas, je rentrerai pas dans le jeu de devoir me justifier, raconter ou d'expliquer ce que j'ai dit. Ce que je l'ai dit en français. Et donc ceux qui ne savent pas lire ou ne comprennent pas le français, qui retournent à l'école.
Juste plus réjouissant pour terminer, parce que vous parlez du début d'année. Avant la galette des rois, en général, il y a aussi le classement des personnalités préférées des Français.
Oui.
Jean-Jacques Goldman numéro 1, Thomas Pesquet numéro 2. Et vous êtes numéro 3.
Avant Kylian Mbappé.
Devant Kylian Mbappé.
Ils ont fait le sondage avant la finale, je crois. À mon avis, c'est avant la finale.
Pour une fois que quelqu'un qui supporte l'OM était devant le PSG.
Non. Alors, je suis supporter de l'OM.
Mais
c'est
aussi,
clair. Mais Kylian Mbappé, il dépasse tout. Il n'y a plus de PSG, là. Ce qu'il a fait en finale, je l'aime d'amour. Voilà.
Bon, mais Omar Sy, troisième, c'est.
Ça vous touche.
C'est une satisfaction.
Ça fait plaisir.
C'est émouvant.
Ça fait plaisir. C'est une marque d'amour en fait.
Ouais.
Et je prends et c'est bien pour ça que je vous dis c'est pas les 2-3 illettrés qui savent pas lire un article qui vont m'empêcher de sortir de ma cachette, parce que il y a de l'amour et je suis décidé à le recevoir.
Merci Omar Sy d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Tirailleurs sort demain au cinéma. Courez-y, c'est un film qui est puissant, qui est bouleversant et qui est nécessaire. Merci beaucoup Omar Sy.
Merci à vous.
Ici votre commandant de bord sur le vol à CUT 89,5 FM, en partance de Charles de Gaulle. Dans 7h10, nous serons à Toronto. Bon voyage.
Madame, Monsieur, en vue de notre proche atterrissage, nous vous invitons à regagner vos sièges et à attacher votre ceinture. Quel voyage ! des rencontres mémorables lors de ma visite à Radio France Internationale, France 24, la Bretagne. On a pu visiter les coulisses des studios et rencontrer les directions des services de RFI. Je vous donnerai d'ailleurs très bientôt les détails de nouveaux projets en cours entre notre émission et RFI. Mille merci à Monsieur Pompeo Pino, directeur Radio Amérique, direction de la distribution et du développement. Eh oui, et un nouveau membre de l'équipe de Radio France Internationale. D'ailleurs, Monsieur Pino était chez nous cette année. Lenny Durin, nouveau membre de l'équipe de RFI, né en Guadeloupe, très jeune, chargé de mission, distribution et développement international, qui sera peut-être sur nos ondes bientôt, qui sait. DJ Devera et moi vont passer un moment inoubliable. Merci du fond du cœur. Hier s'est tenue la 12e conférence sur la décolonisation avec la participation de plusieurs professeurs du CREFO de l'Université de Toronto et aussi des membres de la communauté, des membres très engagés. Parmi les thématiques prises de parole dans les espaces fugitifs, résurgence du fascisme, logique de déshumanisation et praxis anticoloniale. Et oui, la théorie du sentiment est un autre thématique. Anti-français, théorie du sentiment anti-français en Afrique, on l'a vu, on l'a entendu dans plusieurs médias récemment en Europe et surtout en France, entre colonialité du discours et enfumage d'une rhétorique complotiste de mauvaise foi. C'était organisé par le Centre d'études intégratives sur l'antiracisme et le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, OISI, Université de Toronto et ACFA Toronto. Bravo, félicitations. J'espère avoir un petit compte-rendu peut-être avec un membre du CREFO très prochainement. Toutes nos félicitations au professeur Laura Bisaillon du CREFO, gagnante du prix du meilleur livre du réseau d'études canadiennes, Screening Out HIV Testing and the Canadian Immigration Experience, apparu à l'université UBS, Université de British Columbia Press, en 2022. Je rappelle que professeur Laura Bisaillon anime aussi les cafés du CREFO, que vous pouvez retrouver sur le site CREFO ou encore sur notre site popourishop.com. En cette nouvelle saison d'automne, j'espère que vous allez bien. Et oui, je ne vous présente plus Apéro Chic et ses événements tout aussi exceptionnels. Nous continuons nos soirées d'After Work. Nous sommes ravis de voir de nouvelles personnes assister à nos événements francophones, mais aussi beaucoup d'anglophones de tout horizon. C'est un message de victoire à notre ami chez Apéro Chic qui nous propose une soirée mémorable hors du temps et surtout décalée. Prévu pour le mardi 28 novembre, on vous invite à découvrir l'exposition Dali avec un show privé exclusif en présence du commissaire Félix Bélanger. Une occasion unique de découvrir les œuvres de cet artiste à l'univers extravagant. Félix Bélanger vous délivrera tous les secrets des coulisses. Préparez-vous à explorer la vision de Dali de l'enfer, du purgatoire et du paradis dans le monde de Dante. Et nous espérons recevoir justement Peggy, la fondatrice d'Apéro Chic, à nos micros dimanche prochain lors de notre émission spéciale campagne de levée de fonds automnale. Si cela vous tente de nous rendre visite et de nous donner un coup de pouce, envoyez-moi immédiatement un message à popourri@cut.fm. Autre nouvelle qui a retenu notre attention, c'était le lancement d'un observatoire à Toronto en vue de favoriser l'immigration francophone sur la plateforme ONFR Plus et sur popourishow.com. Très intéressant comme projet. Franciser plutôt que faire payer les étudiants. Les universités anglophones font une offre à Monsieur François Legault, Premier ministre du Québec, qui voulait rendre la tâche très difficile aux universités anglophones du Québec. Les universités anglophones ont offert au Premier ministre Legault de franciser au moins 40% de leurs étudiants non francophones venant du reste du Canada et de l'étranger, notamment avec l'instauration de cours de français obligatoires. Après les failles des services en français chez Air Canada, eh oui, Air Canada présente maintenant un plan pour améliorer l'expérience de voyage des passagers en situation de handicap après que plusieurs d'entre eux ont fait part aux médias d'incidents durant leur déplacement avec la compagnie aérienne. Et j'ai passé un coup de vent avant de quitter Paris au salon du Made in France qui se termine ce dimanche aux portes de Versailles à Paris. Plus de 1000 exposants pour faire découvrir le savoir-faire tricolore dans des secteurs très variés. C'est aussi une formidable opportunité pour les entreprises bretonnes 100% françaises. La Bretagne, ma deuxième terre d'adoption que j'aime beaucoup. Allez, je vous retrouve en grand nombre à la clôture de Ciné Franco ce soir. Au cinéma Carlton, j'espère être en forme pour le film Tirailleurs à 19h. Cinéma Carlton, Métro Collège, à ne pas rater. Nos sincères remerciements à Marceline, la fondatrice de Ciné Franco, que j'espère rencontrer dans quelques heures. Merci à tous les donatrices et donateurs de la première heure. Faites un don et courez la chance de gagner une paire de billets pour le grand concert, le lancement d'album du groupe africain 100% canadien francophone le 2 décembre prochain organisé par Batuki Music Society. Tous les détails sur notre site popourishow.com. Une paire de billets pour les personnes qui nous envoient un petit cachet, un don pour soutenir la seule et l'unique émission en langue française sur CUT FM depuis 36 ans. Merci du fond du cœur. À la base. Merci aux éditions Prise de Parole, la Société d'Histoire de Toronto. Retrouvez tous les rendez-vous à venir sur sht.ca ou popourishow.com. Un grand merci à tous les techniciens qui ont produit nos émissions lors de notre absence. Merci à DJ Devera. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve nombreux dans nos studios dimanche prochain au Hot House. Et il faut absolument réserver. Hein. Envoyez-moi un message immédiatement popourri@cut.fm. Eric Adair qui vous souhaite bon dimanche, que la force soit avec vous. Je vous laisse justement avec le groupe Okavango African Orchestra. Ciao, ciao, ciao!
Vai ter muita gente no pé mangá.